aussi pour parler du hacker au cinéma. Il nous fallait un rat de cinéma qui soit lui-même un petit peu bidouilleur et pas uniquement amateur des films de Jean Rollin pour les films d'auteurs autorisants, donc forcément déshabillés puisqu'ils sont français. Ainsi, il a imaginé différemment le rapport entre films projetés et spectateurs en salle. Notre intervenant a mis en place le projet Cinéma de Poche, qui consiste à dupliquer sur clé USB dans un format libre et sans DRM un catalogue cinématographique, parfois en cours d'exploitation.
Vidéo en poche,
s'il te plaît. Vidéo en poche. Oh, punaise. Ok, je ferai un guide commit après. Nous le recevons aujourd'hui car même s'il travaille pour une chaîne de multiplex dédiée au cinéma indépendant, il lui arrive de regarder en cachette des séries mainstream américaines, voire même de mettre perruque et postiche pour aller chez ses concurrents mainstream, mater, hein, dans un plaisir coupable, les dernières super productions à méga budget.
CPU, carré et petit utile.
Notre invité est Rodolphe Village, gérant de Utopia Lab, maquettiste de la Gazette de l'Utopia Édition Toulouse, projectionniste bidouilleur de VLC et amateur du comics transmétropolitain. Rodolphe, oh là là.
Oui. Okay. Oui.
Non, non, mais on lui donne pas les questions à l'avance, arrêtez quoi.
J'essayais de raccrocher les wagons par rapport à l'intervenant précédent, qui parlait de Wargames et de John Badham et qui avait oublié de citer que c'était aussi le réalisateur de La Fièvre du samedi soir. Ce qui me paraissait un élément assez important.
Ah ouais, ça explique beaucoup de choses, ouais. Le hacker au cinéma, c'est une imagerie, je vais dire, à la fois stéréotypée, mais aussi en fait en quelque sorte un thème récurrent. Mais de quoi on peut le rapprocher le plus ? C'est le côté magicien médiéval fantastique ou bien la référence au rabbin qui écrit le mot vie sur le front du golem ?
Alors. De manière plus contemporaine, je le situerais aussi avec la naissance du teen movie dans l'industrie du cinéma américain. Mm-hmm. Et peut-être on pourrait faire remonter ça à American Graffiti de George Lucas en 73.
Tiens, encore un truc de geek.
Voilà, qui, avec le personnage de Richard Dreyfuss, quelque part était un peu le prototype du nerd qui fait la rupture avec le personnage du conducteur de voiture qui ressemblait un peu à James Dean et qui en fait est le grand perdant à la fin, et c'est le nerd qui va aller à la capitale et réussir sa vie et raconter l'histoire. Donc George Lucas, comme par hasard, fut le créateur de Star Wars, inutile de le rappeler aujourd'hui, le 16 décembre.
Puisqu'on enregistre, voilà, le 16 décembre. Pardon. Et que tu es peut-être un maître de l'image, mais pour ce qui est du son, il va falloir que tu décales le pied de micro pour que tu parles en face, sinon ça va pas faire du tout.
J'aime bien parler à mes interlocuteurs en les regardant, donc c'était un peu difficile la config.
Ouais, forcément. Cinématographiquement, quand un hacker travaille, on va dire qu'il travaille.
Richard Dreyfuss, qui quand même, je continue.
Il me fait une thèse.
Non, mais pendant que, en vous écoutant parler, j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia. Et...
Ah, mais ouais, attends, t'es un vrai. Mais c'est de la SF, quoi. Ouais. Chercher dans un téléphone.
Wow. Richard Dreyfuss, qui après a joué quand même dans Rencontre du troisième type. Réalisé par un certain Steven Spielberg, qui allait être aussi un de ceux qui allait promouvoir le teen movie. Dans Wargame, l'actrice dont vous parliez, qui s'appelait Ali Sheedy, a joué également dans The Breakfast Club, qui est un peu le démarrage du teen movie aux États-Unis, qui date de 1985. Donc on peut y faire en parallèle. John Hughes, qui a fait peu de temps après Une créature de rêve et La folle journée de Ferris Bueller. Donc là, on retombe sur nos pattes avec Une créature de rêve, qui est vraiment un film de proto-hacker un peu nerd. Qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là, Weird Science.
Non. Ah non,
pas,
non,
du,
pas
tout.
Du tout.
Ah.
J'étais pas née, moi.
Et dans Hackers, vous n'avez pas cité Matthew Lillard, ou alors j'ai pas entendu.
Non, effectivement, on a pas fait tout le cast.
Qui l'année suivante a joué dans Scream. Où quelque part Wes Craven faisait du hacking sur le slasher movies, et là on retombe sur nos pattes parce que le slasher movies se rapproche beaucoup des teen movies vu que c'était un peu
le même public, ouais.
Voilà, c'était le même public, ouais.
Cinématographiquement, donc quand un hacker travaille, c'est beaucoup moins spectaculaire. En général, le type, il réfléchit pendant un temps avant de lancer une commande au bout de 10 secondes. C'est c'est à peu près aussi spectaculaire qu'une démonstration d'aïkido par Steven Seagal. En général, le cinéma triche, mais est-ce que justement c'est pas une contrainte pour les réalisateurs, et est-ce que justement c'est pas il y a pas eu de la créativité à partir de là pour mettre en scène le hacker?
Alors précise ta question.
Bah oui, justement, c'est sur la mise, sur les questions de mise en scène. C'est est-ce que justement par rapport à un acte du quotidien, c'est-à-dire développé sur un ordinateur et tout ça, est-ce qu'il y a de la créativité au-delà de la tricherie, ce que les trucs en 3D et tout le reste? Non, t'y arrives pas.
Non, je comprends pas le sens de ta question.
Non, mais toi, enfin, quand tu vois, quand tu vois les mecs qui font sans non-stop, etc. Des fois, c'est absolument agaçant. Mais est-ce que des fois, il y a des idées de mise en scène qui te semblent vraiment intéressantes, justement,
pour rendre le hacking?
Ouais.
Ok. Ça y est.
Punaise.
Bah, pas trop jusqu'à présent, justement. C'est à part peut-être dans la série Mister Robot, effectivement, où ça. On commence à voir le hacking. Enfin, visuellement, ça commence à devenir intéressant. Quoi. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu que des effets de surimpression de texte sur l'image qui ont eu leur sommet avec Sherlock Holmes, peut-être. Mais...
Oui, tout voilà, à fait. Ouais. Enfin, la série Sherlock, BBC, hein, voilà, où effectivement les télégrammes sont remplacés par les SMS, voilà. On les voit à côté des personnages. Ouais.
Après, dans Mister Robot, je trouve que le hacking graphiquement fonctionnait bien dans la mise en scène. Quoi. Voilà,
On en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a le cri de guerre hein, dans le film Hackers, hacker la planète. Il y a aussi un peu une allusion à ce qu'allaient être les Anonymous, puisque il y a du tagage et tout ça, et un effet de masse qui est montré. Moi, je me souviens quand même de Jacques Gouamard quand il était venu ici à Toulouse, une interview sur la télé locale, et là, c'est disparu, qui à l'époque était directeur littéraire science-fiction. Il avait dit « Le cyberpunk, c'est un polar avec des boulons ». Mais ce qui est intéressant dans le terme polar, c'est qu'il y a une réflexion sociale, il y a une revendication sociale. Est-ce que justement le hacker amène une revendication sociale au cinéma, n'est pas une manière d'amener ça?
Il y a beaucoup trop peu d'exemples du personnage de hacker dans le cinéma pour tirer des généralités comme ça, je trouve. Enfin, à part le film...
Et dont... bam.
C'est vrai qu'on le voit plus comme étant un mercenaire, en général, comme étant le bad guy.
C'est plutôt un représentant d'une espèce d'adolescence anarchiste qu'autre chose. Enfin, je schématise à mort, mais dans les quelques exemples qu'on a pu voir, c'est ça. Voilà. Bah, Mister Robot est sans doute le premier exemple, mais c'est une série télé. Où il y a une conscience politique vraiment intéressante dans le propos. Quoi.
Mister Robot n'est toujours pas distribué légalement en France. Heureusement que tu fais les allers-retours régulièrement aux États-Unis. Si tu peux nous faire un résumé, c'est une série qui est terminée. Si je me
la première saison est terminée.
Voilà. Donc nous
qui
expliquer un petit peu.
En 2015, je crois.
Nous le résumer un petit peu justement et en quoi elle est intéressante.
Eh ben le personnage principal est vraiment le prototype du Anonymous qui cherche à travers le hacking à donner un bras armé à ses revendications politiques. Donc,
pour faire rapide, quoi.
Voilà. Alors après, je vais pas raconter la série parce qu'on va me traiter de spoiler et tout ça. Donc,
mais sur la mise en scène, en quoi elle est justement, elle est intéressante.
Ben pour une fois, on voit un terminal.
Est-ce qu'on voit des filles qui
qui hackent? Ouais. Oui, il y en a aussi. C'est assez actuel, donc c'est pas
assez actuel. Waouh.
Oui, non, ça c'était pas le mot peut-être. Mais...
Il y a une thématique que l'on voit qui est rentrée brutalement dans l'actualité depuis 2 ans, la surveillance globale, qui est arrivée avec qui au départ était un thème de film de hacker, mais qui était considéré comme étant un peu exagéré.
Pas que de hacker, hein, c'est d'une tradition américaine, la surveillance. Donc ça vient aussi du Washington Post et du Watergate avec les hommes du président. Il y a eu le film de Coppola, Conversation secrète, qui parlait de la surveillance et qui était un prémisse à tout ce qu'on a pu voir après, en fin de compte. Donc,
Et après, justement...
Le personnage de Gene Hackman dans Conversation secrète, d'ailleurs, avait tout du hacker. C'est intéressant à remarquer aussi par rapport à ces histoires d'écoute.
Il y a On a un peu aussi l'image du contrebandier moderne, finalement, du hacker. C'est un peu le Al Capone, celui qui prend du bon temps, qui est là pour...
Je sais pas si Al Capone peut être considéré comme un hacker, là, tu vas loin.
Non, non, ouais, non, mais je veux dire, c'est le côté contrebandier, un petit peu, ils font ça aussi pour le fric et tout ça. C'est des stéréotypes que l'on voit aussi au cinéma ou dans la fiction en général.
Oui, la plupart du temps, oui. Mais encore une fois, il y a vraiment très peu d'exemples du hacker au cinéma. Donc c'est pour ça que j'avais convoqué les ancêtres des années 80 pour essayer de dresser un portrait plus historique du truc. Quoi. Mais,
alors, comme tu tiens un multiplex de cinéma art et essai, est-ce qu'on le trouve maintenant exploité dans
d'autres... Je veux bien dire multisalle, si tu veux, mais...
Est-ce que le personnage du hacker maintenant, puisque tu vas tous les ans à Cannes, tu fais tous les ans le marché du film, est-ce que maintenant c'est une thématique qui sort justement un petit peu de l'Occident ?
Oui. Ça, après, le cinéma tourne autour de cette thématique depuis un certain temps, sans jamais vraiment arriver à en faire quelque chose. Hein. Le dernier exemple en date, c'était le film de... Pardon.
C'est pas grave.
Hacker, le film qui s'appelait Hacker aussi. Deux, j'ai un trou. Aidez-moi.
Ah, tu me demandes à moi.
Oui.
On est mal barré.
Bref.
Et d'un autre côté, c'est vrai que le hacker, c'est un personnage central de la littérature cyberpunk. Puisque c'est celui qui fait le lien entre le monde physique et le monde virtuel, là où il y a une possibilité de battre ceux qui ont plus de moyens que soi. Blade Runner a notoirement inspiré William Gibson, mais c'était une mauvaise adaptation d'un mauvais roman.
C'est pas vraiment un film de hacking, Blade Runner.
Blade Runner, non, mais...
Matrix l'était, oui.
Mais les romans de William Gibson, qui est le prêtre de ce côté-là, ont été extrêmement mal adaptés. Johnny Mnemonic, New Rose Hotel. Est-ce que néanmoins, justement, il y a un début de changement ? Est-ce qu'il y a des distributeurs qui disent on va enfin s'approprier correctement cette littérature-là ?
Ça aurait pu être le cinéma, mais ça arrive par la série télé. Il y a également Halt and Catch Fire qui traite vraiment bien du sujet.
Qui est
une série sur les débuts de l'informatique domestique, pas dans la Silicon Valley, mais sur la côte est plutôt. Et donc les prémices de ce que sera, c'est donc avant 84 en fait, avant le Mac, avant le logiciel libre, c'est les années juste avant, les débuts du PC. Donc c'est un peu le Mad Men du début de l'informatique.
Ouais. D'accord. Ouais.
dans la forme et les ambitions quoi, de cette série.
Donc on a parlé des mauvaises adaptations, c'est vrai qu'il y a, y a quand même des fois on peut parler de nanar des fois ou limite série B. Est-ce que finalement ça a donné un côté cheap
CHIP
Pardon. Pas mal à l'informaticien ou hacker ou au contraire on a des gros artifices côté romance et tout le reste
côté cheap je pensais dans les personnages de hacker récents il y a Q dans les James Bond
Donc il est allé le voir.
Voilà. C'est quand même à noter que c'est le prototype du teen hacker qui a remplacé la vieille barbe grise qui faisait des montres à stylo dans les années 70. Quoi.
Oui, comme il dit, le matin je me lève en pyjama, je peux faire plus de dégâts que vous.
Voilà. Ça c'est peut-être le personnage de hacker le plus réussi des dernières années dans le cinéma, je trouve. Mais bon, il est un peu fugitif. Mais cheap, non, je vois pas. Je vois pas.
Dans le cinéma, donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du mouvement Anonymous qui était plus ou moins abordé, pas trop mal.
Tu penses à V pour Vendetta, donc.
Oh, putain, on parle pas de cette adaptation mal faite.
Oui, mais bon, c'est d'après.
Bah vas-y, allez.
C'est quand même le film qui a donné aux Anonymous son masque, donc. C'est quand même important de le remarquer. Mais évidemment, c'est adapté d'une bande dessinée bien meilleure que vous connaissez aussi.
Mais d'ailleurs, c'est amusant comment ça se nourrit de ce côté-là.
Mais c'est quand même les Wachowski qui l'ont fait. Donc il y a,
Il y a une culture visuelle.
Wachowski, c'est
Matrix, oui.
Qui ont une culture du hacking assez intéressante quand même. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de leurs films. Il y a effectivement Matrix, et puis par la suite, celui sur les jeux vidéo, là, sur les courses de voitures. Speed Racer.
Speed Racer, oui.
Bon, qui est une grosse daube acidulée, mais qui visuellement est assez novatrice. Il y a des choses intéressantes dedans. Ils ont essayé de hacker les effets spéciaux, le côté, le côté jeu vidéo, l'adapter au cinéma, fondre un peu les deux. Quoi. Donc, ils ont une culture.
Chris a parlé tout à l'heure de War Games. C'est un film où là aussi, quand même, on a des éléments quand même qui sont assez concrets de l'informatique qui sont montrés, notamment il est question de scanner d'accès quand ils scannent tous les numéros de téléphone d'un quartier pour trouver une boîte de jeux vidéo pour tomber sur un serveur qui est en fait une démonstration d'attaque en brute force.
Et puis on arrive aux sources un peu du hacking où c'était par exemple téléphoner gratuitement et les premiers hackers cherchaient des choses comme ça aussi. Donc ça rapproche.
On envoyait un signal à 2600 Hz si je me souviens bien dans le téléphone.
Je sais plus.
C'est quelque chose en fait. Est-ce que toi justement par la suite tu t'y es retrouvé par rapport à quand tu as commencé à bricoler un peu? À désosser tes projecteurs, réassembler en C++, trucs comme ça.
Alors, je ne voudrais pas tuer le mythe. Mais
quel mythe?
Non, je n'ai jamais désassemblé un projecteur 35 mm, ça prend trop de temps. Et ça sert plus à rien de toute façon, donc non. Quant aux projecteurs numériques, ce sont des serveurs avec... une grosse puce électronique à travers laquelle on passe beaucoup de lumière. Et voilà, mais bon, mais désosser ça serait rompre les garanties. Donc on sait pas. Et comme ça coûte très cher, on s'est pas aventuré à le faire. Par contre, on a financé une thèse sur le cinéma numérique pour pouvoir.
Ça, j'allais y venir. C'était après la pause musicale le truc où tu devenais sérieux.
Je croyais que tu me tendais une perche. Alors.
Non, mais le truc où tu deviens sérieux en fait pendant les trois dernières minutes. Mais bon, ça c'est donc un cinéma d'art et essai. Mais comme nous, tu expérimentes pas mal. Donc on va parler justement sur les projecteurs. Les projecteurs de cinéma, c'est quelque chose qui est bourré de DRM, c'est-à-dire qu'un film, quand vous le recevez, c'est pas quelque chose qu'on peut le passer dans.
C'est crypté avec une clé asymétrique, comme le PGP en fait. Hein. Mm-hmm. Sauf que c'est sur des fichiers de 150 gigas et que c'est crypté pour par salle, par séance, par. Enfin bon, c'est un. C'est un bousin assez usine à gaz en fait.
C'est-à-dire avant il suffisait de recevoir, enfin il fallait se les trembler les bobines 35 mm, maintenant c'est verrouillé, c'est fini. Faudrait transporter le projecteur pour l'envoyer dans une autre salle quoi, limite.
non, en fait ils se sont rendus compte que les clés asymétriques par salle c'était quand même une bêtise dans les multisalles. Donc actuellement ils envoient des clés pour tous les écrans.
Donc, ce qui est encore mieux.
Ce qui est du hacking en fait de la norme qu'ils avaient eux-mêmes créée quelque part. Mais bon, c'est
quand même fort. Ils font l'inverse de Canal+, ils reviennent en arrière. Quoi que Canal+ aussi, maintenant ils remettent l'ancien cryptage.
Enfin. Il vaut mieux pas parler de Canal+. C'est...
Ouais, ça me ferait mal. Ouais. Justement, il y a un format vidéo spécifique
qui s'appelle le DCP, Digital Cinema Package, qui est en fait. Alors, on pourrait le comparer au MKV, c'est un peu à base de XML.
Et donc, alors, MKV, Matroshka, vous n'êtes pas avancé, et XML, langage de balisage, vous êtes guère mieux avancé.
Voilà. Et je ne sais pas, comme tu m'as dit que ça pouvait être technique,
oui,
je n'avais pas peur de balancer des termes.
On peut y
ça.
Aller, non, mais t'inquiète, justement.
Et donc, à base de XML, en fait, ce sont des conteneurs qui contiennent du JPEG 2000, qui est un codec vidéo qui est très lourd en lecture et qui demande des machines assez puissantes et du décodage matériel en général. Tout l'objet...
Le JPEG 2000, donc c'est de l'image fixe.
Alors, on fait de l'image par image. On n'est pas sur de l'encodage progressif comme les fichiers vidéo qu'on voit sur nos télés, en fait.
Ouais, et quand il y a un néon à côté, on a des grosses traînées violettes. Ça, on ne peut pas l'avoir, donc, si le fichier est endommagé.
Le 35 mm, c'était 24 images par seconde, avec 50 obturations par seconde, même. Mais il y avait 24 photogrammes par seconde. Ils ont essayé de reproduire ça dans le cinéma numérique pour garder la même fluidité de mouvement par rapport à l'encodage progressif. Et donc on a des fichiers très très lourds, parce que le JPEG 2000 c'est très lourd. Le master qui, à partir duquel ils font l'encodage, c'est même pas du JPEG 2000, c'est du TIFF, image par image, donc on est sur des fichiers qui dépassent les 1 Tera, en fait, pour un film. Donc c'est... Mais ça, ils ne pouvaient pas l'envoyer dans les cinémas, donc ils ont fait du JPEG 2000 pour la compression. Mm-hmm. Mais ça, on est quand même au final autour de 150 gigas pour un film. Donc voilà, c'est... Pour schématiser. Donc ça pose des problèmes de décompression et de lourdeur du matériel. Donc l'objet de la thèse qu'on a financée ces dernières années, qui est arrivée à son terme le mois dernier, avait deux parties. La première partie était de créer une alternative pour la projection qui ne nécessite pas un matériel très coûteux. Et on a choisi comme base de lecteur le logiciel que tout le monde connaît, qui s'appelle Videolan ou VLC. Et pour lequel Nicolas Bertrand, qui est donc le docteur actuellement, qui a développé un module qui permet de décoder les films, les copies cinéma à travers VLC, y compris les copies cryptées. Donc c'est pas encore dans la version publique, ça le sera théoriquement dans 6 mois. Mais dans 6 mois, potentiellement, 150 millions de gens pourront lire des copies cinéma. Quoi.
Donc, et l'idée aussi, c'est un peu d'alléger en fait la charge pour les chaînes de cinéma, d'avoir du matériel qui soit un peu moins fermé.
Ben, le but du jeu, c'est pas tellement pour la France, en fin de compte, parce que la France est très très réglementée et on a un tissu de salles qui est assez important dans l'Hexagone. Donc on n'a pas une tellement de nécessité à revitaliser les salles de quartier dans ce pays. Par contre, il y a beaucoup de pays comme l'Angleterre actuellement où se redéveloppent les cinémas communautaires, un peu quelque part les dérivés des ciné-clubs d'antan. Mais avec des moyens assez frustres, hein, c'est des lecteurs Blu-ray, des choses comme ça qu'ils font. Donc on peut imaginer un renouveau des salles de quartier, mais avec une qualité cinéma grâce à ce qu'on a aidé à développer. Quoi. Voilà, c'était un peu l'ambition. Et l'autre partie de la thèse, c'était aussi de faire du transfert dématérialisé de ces films qui pèsent 150 gigas, donc c'est assez lourd par le net. Donc on a créé quelque chose qu'on a d'abord appelé The DCP Bay, pour rigoler, c'était à base de peer-to-peer, pour envoyer les copies de films, genre les copies de Star Wars et tout ça, dans les salles de cinéma. Mais bizarrement, les partenaires avec qui on travaillait à Paris n'étaient pas très chauds pour aller voir Disney, pour leur demander de passer ça par The DCP Bay. Donc ils ont voulu prendre un autre nom, The DCP Bay étant le nom caché du projet maintenant, mais actuellement ça s'appelle un DCP. Bon bref, c'est un jeu de mots un peu con, mais voilà, ils ont préféré ça. Okay. C'est vraiment la petite histoire là.
On va bientôt rendre l'antenne. Ouais. Donc juste une chose, les prochaines dates phares des cinémas Utopia à Toulouse et à Tournefeuille concernant en fait ceux qui sont proches justement de la culture du numérique.
Alors, la prochaine, c'est, on est assez content de pouvoir proposer un film qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle The King of Kong, qui est un peu le When We Were Kings du rétro gaming, où il y a un combat au sommet, un duel au sommet entre deux spécialistes de Donkey Kong sur les bandes d'arcade. Et ça passera le 14 février. Voilà. À Utopia Toulouse. Ça, c'est la prochaine date. Et sinon,
c'est énorme.
On est assez contents.
À ce qui paraît, c'est vraiment énorme.
C'est très, très bon. C'est vraiment un très bon documentaire qui a vraiment des allures de fiction et qui est vraiment très, très chouette. Et l'autre date, ce sera sur la réalité virtuelle dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Donc, il y aura des développeurs de jeux, tout ça. Et le film qu'on va passer s'appelle The Congress, qui était sorti il y a 2-3 ans. Je crois un peu, voire un peu plus, je ne sais plus, de Harry Folman, qui est passé complètement inaperçu parce qu'il était sorti en juin. Personne ne l'a vu, je pense. Vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs.
Non.
Voilà, ça tombe bien. Donc, qui est un film très intéressant sur la...
Il y en a un qui l'a vu. Ouais, bon, d'accord, OK.
Et donc, qui sur la réalité virtuelle et pas trop technique, mais qui dit des choses vraiment intéressantes sur ce que ça pourra amener dans le futur. Voilà, donc voilà, et que ça servira de base à la discussion après avec des spécialistes à la fois du cerveau et des développeurs de jeux en réalité virtuelle. Voilà.
Merci beaucoup, Rodolphe Village.